Bonjour, c'est Une vie, une œuvre. Aujourd'hui, Michel Pomared et Yvon Croisier vous proposent le portrait d'Amy Winehouse, 1983-2011. Chanteuse, auteure, compositrice et interprète britannique, Amy Winehouse puise ses multiples influences musicales entre jazz, blues et soul. Son timbre de voix particulier et son look des années 50 lui confèrent le statut d'icône musicale des années 2000. Contrairement à toutes les divas qui passent d'une octave à l'autre, c'était un contralto qui apportait à son interprétation le maximum de conscience. « Une fille avec une âme », disait Philippe Manœuvre, jusqu'à ce jour fatal de juillet 2011 où elle a définitivement rejoint le club des 27, celui des rockstars comme Jim Morrison, Janis Joplin ou Kurt Cobain, mort à 27 ans.
14 septembre 1983. Amy Winehouse naît à Southgate, au nord de Londres, dans une famille juive de classe moyenne. 1993. À l'âge de 10 ans, elle fonde avec Juliette Ashby, son amie d'enfance, le groupe de rap Sweet and Sour. Son modèle, le groupe de hip-hop américain Salt and Pepper. 2003. 10 ans plus tard, c'est la sortie de son premier album, Frank, en hommage à Frank Sinatra, le chanteur préféré de son père. Ce dernier, qui a quitté le domicile familial alors que sa fille avait 9 ans, repointe le bout de son nez. 2006, la sortie de son second album, Back to Black, fait d'Amy une star planétaire. Black, c'est Blake Fielder Civil, un bad boy qui lui fait connaître de nouveaux amis inséparables. Héroïne, coke, crack. Goes to Amy Winehouse. 2007. Amy est sacrée meilleure nouvelle artiste, album de l'année et chanteuse de l'année pour le titre Rehab aux Grammy Awards. Rehab, c'est les cures de désintoxication auxquelles elle dit no, no, no. Le 18 mai de la même année, elle épouse Blake à Miami, en Floride. Le divorce sera prononcé en juillet 2009. Verdict sans appel. Love is a losing game. Le 18 juin 2011, c'est le dernier concert d'Amy à Belgrade. La chanteuse est ivre. Elle est incapable de chanter. Elle fait peine à voir. 3 jours plus tard, le 23 juillet 2011, Amy est retrouvée morte dans sa maison du 30 Camden Square à Londres. L'alcool l'a tuée. L'alcool a bon dos, non ?
Il était une voix. Amy Winehouse. Michel Pomared, Yvon Croisier.
Février 2018. Un titre inédit d'Amy apparaît sur le web. My Own Way. Enregistré en 2001. Elle a alors 17 ans.
Gulsang, vous êtes producteur de musique ici à Londres. Et c'est vous qui, en février 2018, avez sorti cet inédit d'Amy Winehouse. Vous n'aviez jamais raconté cette histoire auparavant. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu parler de cette chanteuse ?
La première fois, c'est en septembre 2001. C'est probablement la semaine avant qu'elle ne vienne en studio et qu'on écrive ensemble une chanson. Et on a reçu un coup de fil au studio d'un gars de chez 19 Management. Et il nous a dit qu'ils avaient signé une chanteuse dont on disait le plus grand bien. Et on s'est dit, Et on n'y a pas pensé plus que ça. C'était encore une nouvelle chanteuse à rencontrer, mais bon, je faisais ça tous les jours. Mais c'était pas vraiment une chanteuse comme les autres. Je me souviens, quand elle est arrivée, elle était un peu timide, comme une fille de 17 ans. Elle fumait une Marlboro Light. Et j'ai remarqué qu'elle avait écrit, en gros, au marqueur noir sur son jean au niveau des fesses, Sinatra, c'est Dieu. Ça sortait de l'ordinaire. Mais elle était directe, drôle, et on a écrit cette chanson. On a passé une journée dessus. J'avais pas vu souvent de filles qui s'y connaissaient autant en jazz. Ça, c'était rare. C'était clair qu'on n'allait pas coucher sur le papier une ritournelle à la noix, genre « Oh baby, baby ». On n'était pas dans le registre de Britney Spears. ou tout ce qui tournait alors.
So yes, it does seem quite, you know,
alors oui, aujourd'hui, cette chanson, c'est vrai, elle semble assez prophétique,
like she was
comme si
Amy
se projetait dans ce qui allait lui arriver. Tout ça, je ne sais pas. C'est vraiment dur de savoir, mais je ne me souviens pas qu'on l'ait faite avec ça en tête. Mais quand je la relis aujourd'hui, ça raconte toute sa vie.
I've never been in love before, such a foolish thing to be.
J'ai jamais tombé amoureuse avant. Un état insensé. Le prix à payer me paraît élevé, alors je resterai seule, tranquille, et je ferai ce que je veux, moi, quand je le sens. Je vois les autres qui se cassent la gueule si facilement et qui tombent pour un temps dans une sorte de folie. Il y en a qui disent que le véritable amour est aveugle. Moi, ce que je préfère, c'est y voir clair. Donc moi, je prends mon temps. Et moi, je suis mon propre chemin. Je me mets en route quand je veux. Je me mets en route quand je le sens. Je m'adresse aux autres quand j'en ai envie. Je trouve ainsi ma direction, en marchant et en parlant quand je le sens. Ça peut paraître pas très logique. L'amour se prouve sans condition. Donnez votre cœur à quelqu'un d'autre, mais gardez-en un peu pour vous. Pas de méprise. Ça peut paraître un peu cynique, mais en fait, j'ai la trouille. Donc je fais gaffe avec mon cœur. C'est le seul que j'ai. J'ai pas envie de merder. Alors je suis mon chemin. En fait, c'était nouveau pour elle d'écrire à quatre mains. Pour ce texte, je pense qu'on avait déjà un air dans la tête, qu'on avait déjà les accords, et puis on s'est mis à chanter des mélodies. J'ai dû fredonner le début parce que c'est un peu une reprise du titre Mascarade de George Benson, pour être parfaitement honnête.
Which is pretty similar. It flowed definitely.
Les mots coulaient facilement. Elle chantait un peu en écrivant, mais on l'avait pas encore entendu dans un micro et.
You know, that magic moment came at the end.
Ce moment magique est venu à la fin.
The end of the day.
À la fin de la journée.
We just did three lead vocals.
On a juste fait trois prises pour la voix principale.
Some bit of backing vocals. A bit of just the, I go my own way. Like,
et après, on a fait les chœurs. Donc, on a dû passer 45 minutes pour les voix. Vous savez, on n'en croise pas des comme ça souvent. C'est une chanteuse exceptionnelle. Une artiste hors du commun, mais d'abord une chanteuse exceptionnelle. Elle l'a sur mon écran, vous voyez, la date de l'enregistrement. C'est la veille du 11 septembre 2001. J'avais jamais remarqué avant. Mais je me suis dit, waouh.
Wilsang, donc le 10 septembre 2001, vous enregistrez cette démo d'Amy Winehouse et vous l'égarez, vous l'oubliez pendant 17 ans, jusqu'au 27 février 2018, c'est bien ça?
Yeah, well, I didn't like lose it, but you know, a lot's happened in 17 years.
Oui, il s'est passé beaucoup de choses en 17 ans. J'étais très occupée sur tous les fronts à l'époque.
There was kind of a lot for me going on just at that point, because in fact that was just the time.
J'avais aussi
Michael Jackson song.
Une chanson pour Michael Jackson qui allait sortir et je suis partie aux States.
And then obviously, I'd heard it. In the times when
donc cette chanson d'Amy, j'ai dû l'écouter quelques fois, puis je me suis dit, il ne se passera rien avec ce titre.
Quand elle était petite, Amy aimait faire des listes de manière obsessionnelle. Les expressions qu'elle employait pour se décrire, c'était « je parle fort, je suis brillante, audacieuse, sauvage, spontanée, j'ai de l'imagination et je suis directe, genre « pan, dans ta gueule ».
Extrait du livre « Loving Amy » publié en 2014 par sa mère, Janice Winehouse.
J'ai retrouvé une appréciation de son professeur de chant des années plus tard. Amy a sûrement une belle carrière qui l'attend, mais son incapacité à se concentrer lors des cours fait qu'elle ne profite pas pleinement des enseignements. En tout cas, à la maison, son amour pour la poésie et les histoires s'est vite retrouvé dans ses cahiers. Je me rappelle que pendant des mois, elle s'est même intéressée à l'écriture des haïkus. Elle passait des heures enfermée dans sa chambre à jouer avec les mots. J'ai retrouvé un poème intitulé « La folie ». Amy a alors 12 ans. Il y a des gens qui se prennent pour des fraises, mais cela ne met pas les pommes à l'aise. Pour les gens, sains de corps et d'esprit, qui liront ce que j'ai écrit, tout ça, c'est de la folie.
Morgan Wadsworth Boyle, vous êtes occupé de l'exposition Portrait de famille en 2013. C'était ici au musée juif dans le quartier de Camden. C'est donc une exposition consacrée à la famille, Winehouse. Quand est-ce que commence cette histoire des ancêtres de la chanteuse ?
Elle commence dans ce qui est aujourd'hui la Biélorussie. La famille est établie dans un petit village en dehors de Minsk. L'arrière-arrière-grand-père d'Amy, Harris Winehouse, est arrivé en Grande-Bretagne en 1890. La légende familiale raconte que son intention était de rejoindre New York. Mais son bateau est arrivé à Londres. En fait, les recherches faites à Minsk prouvent qu'il a été victime d'une arnaque. Il s'est installé dans l'est de Londres, près des docks, et a trouvé du travail comme couturier. Et comme il avait laissé femme et enfants derrière lui, ils sont venus le rejoindre quelques années plus tard. Là, sous les yeux, nous avons l'arbre généalogique des Winehouse qui a été montré dans l'exposition de 2003. Ben, l'arrière-grand-père d'Amy, Ben Winehouse, était barbier et vivait au-dessus de sa boutique. Le grand-père, Alec, y est né. Lui est devenu chauffeur de taxi. C'est un travail typique pour Londres, spécialement dans la population juive. Mais Alec est surtout connu pour avoir épousé Cynthia, une femme qui a eu une énorme influence dans la vie d'Amy. Elle était une figure très à la mode. Elle a eu avant son mariage une liaison avec le saxophoniste Ronnie Scott. Et dans la collection de disques d'Amy, il y a un disque de Ronnie Scott qu'on a montré dans l'exposition. La passion d'Amy pour la musique et le monde qui l'entoure, sa façon de s'habiller, tout cela vient de sa grand-mère, Cynthia. Là, sous nos yeux, nous avons quelques photos d'elle. Là, c'est une photo de couple avec son mari Alec. Et Cynthia a une frange courte. Elle porte une robe Vichy, des sandales à talons compensés à bout ouvert. Et ce qui est très intéressant, c'est que cela ressemble vraiment à ce qu'a porté Amy et qui l'a rendue célèbre. Cynthia a vraiment été une figure centrale dans la vie de sa petite fille. C'est elle qui l'a encouragée à avoir de l'ambition dans le monde du show business.
J'essayais de l'élever correctement et je pense que je n'ai pas perçu toute la créativité qui crépitait en elle. Je n'ai vu que son côté mauvaise fille. C'était un rôle qu'elle savait jouer, comme si c'était ça qu'on attendait d'elle. En tout cas, c'était une manière pour elle de se faire remarquer. Je ne me rappelle pas qu'Amy m'ait confié un jour qu'elle voulait être une star. Chez sa grand-mère, Cynthia, elle écoutait toute la journée des airs de jazz. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. À la maison, moi, je mettais souvent Carole King et James Taylor, dont j'étais fan. Après le divorce avec mon mari Mitchell, Amy, qui a alors 9 ans, m'a dit... Papa est parti. Je peux avoir un hamster ? Je me souviens aussi que nous avons eu des poissons rouges baptisés Lennon et McCartney.
Gulsang, est-ce qu'à l'époque, vous aviez repéré toutes les influences dans la musique d'Amy Winehouse ?
Je ne crois pas que je m'en sois rendu compte à cette époque. Mais maintenant, à la réécoute de ses chansons, je peux dire ça, c'est Dinah Washington, ici c'est plutôt The Shirelles. Là, il y a quelque chose d'Ella Fitzgerald, ici quelque chose de Sarah Vaughan. Oui, vraiment. Mais vous savez, je ne suis pas un grand connaisseur de jazz. Bon, en écoutant d'autres titres, j'ai reconnu les groupes des filles des années 60, dont on a beaucoup parlé, mais oui, tout ça, je l'ai retrouvé.
En 2000, Amy a 17 ans. Elle rencontre les producteurs Nick Chimansky et Nick Godwin. Elle a une cassette qu'elle a enregistrée dans son coin, sur laquelle figure une chanson. Le jeu à la guitare est mauvais, mais la voix de ma fille leur a donné la chair de poule. Ils lui ont demandé ce qu'elle voulait faire plus tard. Elle a répondu, je sais pas, chanter un peu et devenir une serveuse en patin à roulettes. Les producteurs ont vite pris la mesure du talent de ma fille. Ils lui ont fait signer un contrat et l'ont encouragée à venir en studio. Mais elle était toujours en retard. Parfois, elle ne venait pas du tout. Qu'à cela ne tienne, ils ont déplacé un camion avec des techniciens, des micros, des magnétos et ont entassé tout ça dans la chambre bleue d'Amy. Elle m'a dit, t'inquiète pas maman, c'est juste des gars qui bougent des trucs dans ma piole.
Charles Moriarty, vous êtes photographe, vous avez publié deux livres de photos d'Amy Winehouse, l'un en 2016 qui s'intitule Before Frank et l'autre un peu plus tard, Back to Amy. Vous avez commencé quand cette collaboration avec la chanteuse?
Probably in June 2003, through a friend of mine who was close to her from school.
Ça devait être en juin 2003, on s'est rencontrés par un ami commun qui la connaissait depuis l'école. Il m'a appelé pour faire des portraits d'elle, pour son album Frank. À l'époque, la photo, c'était pour moi un hobby. Quant à la première fois où je l'ai vue, c'est le jour où on a shooté la couverture de son album. Elle est venue dans mon appartement. On a essayé d'imaginer ce qu'on voulait raconter en images et comment on allait réussir à le faire en un soir. On est sortis, on s'est acheté une bouteille de vin, et on a traîné dans les rues et j'ai commencé le shooting, juste une pellicule. Et ça, on a effectivement trouvé la couverture de l'album Frank, avec son pull rose et un chien en laisse. Le premier livre, Before Frank, ça vient évidemment de l'album, donc c'était facile à trouver. C'est le résultat de deux séances, en juin et en juillet 2003. 4 mois avant la sortie de l'album, en octobre. Ces clichés immortalisent le moment avant l'arrivée de la fameuse Amy Winehouse. En fait, dans mes photos, il y a deux
Amy.
La fille et puis la chanteuse. La couverture de mon livre, ce sont des lettrines bleu-gris qui tranche sur une photo d'Amy avec sous le bras sa petite guitare Fender couleur bleue. Elle porte un haut à damier noir et blanc. Elle arpente une rue dans le nord-est de Londres. On est à la moitié de la pellicule. Et c'est juste après la tombée de la nuit. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule avec ce beau regard. C'est pourquoi, là, elle ressemble vraiment à Amy Winehouse, pour moi. La fille est partie, la chanteuse est arrivée.
Pascal Louvrier, on est assis donc à une terrasse du 18e. C'est pas tout à fait la même atmosphère que dans Camden. Vous vous êtes promené dans ces lieux, qu'est-ce que ça raconte?
Je trouve que c'est un quartier très, très vivant et qui est un peu à l'image d'Amy, à la fois cosmopolite, avec plein d'effervescence. Et d'ailleurs, elle a travaillé également dans le fameux marché de Camden. Elle vendait des t-shirts. En fait, elle a tourné tout autour de sa vie dans ce quartier. Mais elle est allée dans un Camden beaucoup plus bourgeois, avec devant un parc assez sombre. Ça correspondait pas du tout à l'Amy effervescente que l'on connaissait.
Et donc, elle va voir un tatoueur qui s'appelle Henry Haight. Henry Haight. Henry la haine, qui écrit des mots d'amour sur le corps de Amy.
Oui, tout à fait. En fait, vous l'avez bien résumé, parce que c'est un oxymore. Et Amy, c'est un oxymore à elle toute seule. Bon, ben, avec un tatoueur, on entre directement dans l'intimité, parce que c'est la peau. Et on voit les étapes de sa vie. Et à chaque fois qu'il y a une étape importante, elle va voir le tatoueur, et puis on dessine à nouveau quelque chose jusqu'à dessiner un tatouage qui renvoie à Blake. Donc voilà.
Une encre marine avec Bonjour marin.
Bonjour marin, voilà, c'est ça. Et ce qui veut dire qu'elle savait qu'avec, en l'ayant rencontré, on allait naviguer à vue et sur des eaux difficile et trouble.
Parce que donc elle fait tatouer quelque chose en hommage à sa grand-mère, à son père aussi.
Oui, oui.
À son amant, Blake.
Oui. Et à la fin, ça constitue une sorte de bande dessinée qui résume les grands moments de la vie d'Amy. Oui, 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 tout à fait.
And this is a tune called What Is About Men? About my daddy. Yeah, no, it's not an our situation. Oh, it's cool now. At the time, though, you know. Go on, baby. Go on, baby.
Les chansons qui figurent sur l'album Frank en 2003 ont été écrites par ma fille dans ses moments d'intimité, comme lorsqu'elle était petite fille et qu'elle noircissait les pages de ses carnets. À la sortie du disque, on n'a pas cessé de lui demander de se raconter, encore et encore. Mais elle n'a que 20 ans alors, elle est immature, livrée à elle-même. Vous savez quoi? Elle n'avait même pas une copie du CD chez elle. Ma fille s'est fait connaître du monde entier avec ce disque qui pétait le feu. Les gens s'attendaient à voir une chanteuse noire tout en rondeur, âgée de 40 ans, et ils ont vu débouler une jeune femme blanche, juive et plantureuse de 20 ans.
Once he was a family man, so surely I would never ever go through it first hand. Him too late, what does she, my mama, hate? I can't help but demonstrate my Freudian face.
It's an instrument, it's like...
Sa voix, c'est un instrument. Un instrument avec lequel elle a très bien joué. Sa voix a tellement de nuances, de plaintes et de déliés, avec aussi cette rugosité. Sa voix est synonyme d'émotion, elle est tranchante. Amy, c'est vraiment une artiste dans cette acception. Le rythme dans lequel elle évolue,
dans son scan.
Le moment où elle place sa voix, c'est vraiment surprenant. Ça lui appartient. Il n'y a pas grand monde qui puisse chanter comme ça. Les autres flottent sur la musique, mais elle... Et de ce qu'on sait de sa vie, ça n'a pas été un trajet rectiligne et heureux. Ou alors les moments de bonheur ont été rares.
C'est tous des sujets sadistes.
Et ça raconte des choses tristes, mais ça fait du bien quand on les écoute. Ça, c'est étonnant.
C'est, je crois qu'on interprète les chansons que par rapport à ce qu'on vit.
Valérie Zetoun.
Et le message, il n'est pas le même. Un message dit avec des fêlures, c'est pas le même qu'un message dit par un artiste qui est sûr de lui et qui est... voilà. Et effectivement, il y a du Billy Holiday. Il y a ce qui m'a toujours fasciné chez ces artistes-là, qui vont vite et que la vie a pas épargné, qui sont totalement meurtris par des choses qui même parfois peuvent nous sembler à nous totalement anecdotiques, et puis qui eux sont touchés par ça. Voilà, c'est pour moi ces gens comme ça qui arrivent du ciel là, qui vivent très vite, qui laissent quelque chose de très fort et qui se barrent.
Et donc, voilà, j'ai voulu faire une biographie pour essayer de voir qui elle était réellement.
Alors justement, le livre, ça s'appelle Amy Winehouse, No Limits, en français dans le texte, on pourrait dire. Les limites qu'elle a repoussées, c'est quoi? C'est les limites de son corps, de son talent, de sa vie psychique, du désarroi de sa famille. C'est quoi les limites qu'elle a repoussées?
C'est un peu tout ça, en fait. Il y a une rupture. Un bouleversement vraiment extrêmement violent chez elle qui se produit à l'âge de 9 ans quand son père décide de quitter la maison familiale. Ça explose tout. Et Amy, qui est une jeune fille précoce, extrêmement sensible, qui adore son père, et cette jeune fille perd le principal repère. À partir de là, elle va commencer à devenir une jeune fille à problème, comme on dit, hyperactive, violente, qui est virée de l'école. Tout va s'enchaîner et elle va repousser les limites effectivement de son corps, notamment avec la série de tatouages qu'elle va se faire. Elle est boulimique, elle martyrise son corps véritablement. Elle se fait vomir, elle devient anorexique, elle commence à picoler dès l'âge de 16 ans, et puis ensuite elle va rencontrer certains bad boys qui ne vont pas la mettre, j'oserais dire, dans le droit chemin, mais c'est normal, c'est le principe des bad boys. Elle est attirée en plus par ce genre de mec, et elle va aller au bout de ses forces, elle va aller en même temps au bout de sa création artistique. Avec ce que je considère être comme un véritable chef-d'œuvre qui est Back to Black, qui vient des tripes, quoi. He left no time to regret, kept his dick away with his same old safe bag. Me and my head high. And my tears dry, get on without my guy.
We're photographing in New York in a bathroom, and
et il y a une photo où elle est dans une baignoire. On est à New York et elle me tire la langue.
It's a great photo. It's very much just Amy being.
Et là, c'est vraiment Amy.
A few pages before, she's in full sort of icon mode.
Quelques pages avant, elle est dans le trip. Je suis une icône. Là, elle rigole.
Not taking things too seriously.
Et elle ne se prend pas au sérieux.
You get a mix.
Il y a vraiment les deux côtés.
There's very clear moments where she's, in a sense, posing for the camera.
Il y a des moments où elle pose vraiment pour l'appareil.
Just quite relaxed.
Et d'autres où elle est relaxe.
And enjoying herself.
Elle se marre. Elle profite du moment.
La mère d'Amy Winehouse dit de sa fille que dans l'enfance, elle était un garçon manqué. Vous en pensez quoi?
To a degree, I would also say she was creating.
Dans une certaine mesure. Elle s'est aussi créée une extension d'elle-même. Mais je pense que oui, à sa manière, elle avait ce côté garçon manqué. Oui, vraiment. Mais en même temps, elle adorait les fringues. Et ça faisait partie de sa personnalité. Je pense que sa choucroute sur la tête, ça fait partie plus tard de son personnage de tournée, mais au début, cette coiffure, C'est vraiment sa façon d'accentuer quelque chose de personnel. Et là, sur ces photos, à New York, on est dans la Ritz Tower, à Manhattan. Le cadre correspond, donc elle s'est fait ce look. Mais à la fin, ce look, c'est devenu qui elle était. Je pense qu'elle était heureuse quand elle portait des jeans et un t-shirt. Autant que quand elle était habillée de pied en cap pour sortir. Ça, c'est une série où elle porte le t-shirt du film Dirty Dancing avec la tête de Patrick Swayze. Et celle-là, où elle tient sa Gibson, a été prise à l'intérieur de l'ascenseur. Un peu plus tard, on la voit en train de rire. On était en train de parler des garçons d'étage qui n'arrêtaient pas d'appeler car tout ce qu'elle portait, c'était un t-shirt et des talons hauts. On s'est bien marré. Ce moment où elle éclate de rire, c'est vraiment le cliché d'elle le plus naturel, du moins dans ce livre.
Le psychiatre Eric Corbobès.
Dans chaque célébrité, il y a un moment donné où il faut se créer. Il faut créer son double célèbre. Et le double célèbre, c'est le double magnifié. C'est ce qu'on espère être. C'est ce qu'on voudrait être. Et c'est ce qu'on donne de plus beau à voir à son public. Et j'ai l'impression qu'au moment du deuxième album, au moment de Back to Black, elle trouve ça. Et qu'à ce moment-là, elle trouve un personnage, elle l'offre, et ça marche tellement bien qu'elle ne peut pas pouvoir s'en détacher. Et effectivement, à la fois, elle crée ce personnage, et elle va être bouffée par lui. Il y a une nouvelle d'Anderson qui s'appelle L'Ombre, qui raconte l'histoire d'un personnage qui va donner sa liberté à son ombre, et son ombre va finir par prendre sa place. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
C'est quand la santé de sa grand-mère paternelle, Cynthia, a commencé à décliner, et que la mienne n'était pas au mieux, que le bateau familial a commencé à tanguer. C'est le moment qu'a choisi ma fille pour s'enfoncer dans l'autodestruction. Au moment où son étoile commençait à briller dans les cieux artistiques, les fondations de sa famille vacillaient. Et nous n'y pouvions rien. Elle a alors cherché quelqu'un à qui se raccrocher pour lui apporter du réconfort. Mais elle est tombée malheureusement sur ce garçon, Blake Fielder Civil, et son cortège de drogue dure. For you, I was a flame. Love is a losing game. Five-story fire, yes, you came. Love is a losing game. One I wish I'd never played. We made, and now the final frame. Love is a losing game. À mes yeux, sans aucun doute, l'album Back to Black en 2006 est une réussite. Ce qui est étonnant, c'est que pour beaucoup, c'est l'expression des peines de cœur de ma fille, alors que pour moi, c'est aussi un disque qui parle de revanche. C'était vraiment Amy criant haut et fort à Blake d'aller se faire foutre. Le problème, c'est que ces chansons avaient été écrites dans un moment de bouleversement personnel et que chaque fois qu'elle les chantait, cela la replongeait dans ce chaos émotionnel. Later, I'll buy the band. Love is a losing hand. It was more than I could stand. Love is a losing hand. Self-professed, profound, down the tips, wear down. Though you're a gambling man, love.
La scène se passe à Cannes, on doit être dans les années 2006-2007. Il y a Amy Winehouse sur scène et vous êtes avec votre père et votre fille dans la salle. Racontez-moi la sensation et le spectacle.
Oui, c'est à Cannes, c'est au Midem. Donc le Midem, c'est un marché de la musique, donc c'est pas un endroit propice à faire des bons concerts. Il y a Amy Winehouse que je vais récupérer pour la France, puisqu'à l'époque je travaille chez Universal Music. Et donc je distribue le label Island, et Island est chez moi, chez AZ en France. Et donc on me dit, il y a Amy Winehouse qu'il faut aller voir.
Valérie Zetoun.
Et je vois donc arriver ce petit bout de femme, 1m55 ou 56, bourrée de tatouages, avec cette choucroute là des années 60. Et puis elle se met à chanter avec cette voix là, un peu rauque. Et effectivement, j'ai donc à l'époque mon père qui a 60 ans et ma fille qui en a 15. Et on reste tous les trois totalement ébahis et bouche bée par le talent de cette artiste. Une artiste qui arrive à réunir un grand-père de 60 piges, une gamine de 15 et un quadra, c'est que vraiment, il va se passer quelque chose.
Donc vous la rencontrez, enfin vous la voyez en concert, et donc on est en 2006-2007. Les 4 ans qui suivent vont être, elle est plus dans la, on va dire, dans les articles de faits divers que dans les articles musicaux. Comment est-ce que vous percevez cette chute ? Et est-ce que ça vous étonne ?
Oui et non. Ça a le don d'énerver tout le métier. Parce qu'il y a plein de rendez-vous qui sont manqués. Des rendez-vous importants, des émissions, ou même voir des concerts qui sont horribles. Je me souviens du Zénith à Paris qui est complètement raté, où elle est bourrée au dernier degré, où elle est dans un état lamentable. Et puis il y a tous les gens du métier qui se moquent d'elle. Et moi, ça me brise le cœur. Parce que je sais que Amy Winehouse, c'est un personnage de Balzac. C'est une artiste qui est morte, pas de la drogue, pas de l'alcool, elle est morte par amour pour un mec. Though I battle blind love, here's a favorite time, and the memories that mar my mind, love, here's a favorite. Moi, elle m'avait dit, tu sais, mon rêve, c'est de faire 6 gosses à mon mec et de leur faire à bouffer tous les soirs. Elle était totalement à part de pas uniquement des chanteurs, des êtres humains, c'était un être à part.
Alors, je la vois avec beaucoup de peine, en fait, parce que je...
Éric Corbeau-Besse.
Je crois qu'il y a une rencontre assez fabuleuse avec un public où il y a eu la conjonction de plusieurs choses, à la fois une personnalité incandescente, on sent qu'elle brûlait de l'intérieur depuis longtemps, on sent que les vibrations de sa voix avaient quelque chose à voir avec ce feu intérieur, et on sent qu'elle a touché aussi par sa voix et par ses textes quelque chose de très profond chez le public. Mais on voit aussi à quel moment elle n'a pas pu faire la part des choses entre son image publique et son image privée, que tout ça s'est aggloméré et qu'elle a été jetée en pâture à son public, à les aux journalistes, aux paparazzi et aux producteurs.
Serge Kaganski, ancien journaliste des Inrock, écrit notamment ceci. Amy Winehouse est passée de l'image miroir flattant son narcissisme ordinaire de girl next door à l'image prédatrice, omniprésente, menaçant sa santé mentale et sa vie. Vous en pensez quoi ?
Je crois qu'effectivement, il y a un moment donné, elle s'est perdue dans le miroir, dans le sens où elle s'est prise probablement pour son image, et le public l'a prise aussi pour son image. Il n'y avait aucun moyen de se décoller de ça. Le public au sens large, hein, quand je dis le public, c'est à la fois ses fans, c'est à la fois ceux qui vont la voir en concert, c'est à la fois ceux qui ont ouvert les magazines, les tabloïds anglais pour la voir dans le caniveau, et à la fois où toutes ces personnes ont à un moment donné se sont dit qu'elle était tellement belle qu'il fallait la bouffer, qu'il fallait la mettre à l'intérieur de soi. Voilà, un peu comme ces petits enfants qui, à un moment donné, se mettent à arracher les bras de leurs poupées et à vouloir les détruire. Parce qu'elles les aiment trop, en quelque sorte.
En En 2006, l'année de sortie de Back to Black, c'est comme si le crayon pour les yeux utilisé par Amy depuis des années avait décidé de vivre sa vie à lui. Sa coiffure a changé, elle se peignait avec la frange en arrière. Je dois dire que je n'appréciais pas la métamorphose. Cela va sembler bizarre, mais ma fille a toujours été pour moi un garçon manqué, et là c'était comme si elle portait un déguisement. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, elle savait encore qui elle était vraiment ? Je me suis retrouvée à regarder ma fille dans des shows à la télé et à me poser la question. Un jour, je suis allée au musée de Madame Tussaud pour voir la statue en cire d'Amy. Et là, je l'ai vue, avec d'un côté Jimi Hendrix, les Beatles de l'autre, et même Michael Jackson, le héros de son enfance. Elle était vraiment en bonne compagnie. C'est la première fois que je me suis rendu compte de la place qu'elle s'était faite dans l'histoire musicale. Là, je me suis dit, waouh.
Pascal Louvrier, si je vous disais, il était une fois une jeune fille nommée Amy Winehouse, comment est-ce que vous poursuivez la phrase ?
Qui fut abandonnée par les siens, en particulier par sa famille et par ceux qu'elle a chéris. Voilà.
Aujourd'hui, les siens, donc Mitchell, son père, a sorti deux disques, a sorti un livre. Sa mère a sorti un livre aussi. Ils ont créé une fondation. Et quand j'ai approché sa mère pour avoir une interview, elle m'a suggéré de faire une donation, a reasonable donation, donc une donation conséquente à la fondation. Est-ce que la famille Winehouse fait de l'argent sur le dos de sa fille ?
L'argent, c'est depuis le début, hein, puisque son père, c'était le manager. Il l'a poussée à monter sur scène quand visiblement elle n'en était plus capable. Alors la famille, et en particulier Mitch, s'est fait de l'argent sur son dos. Maintenant, ce que je comprends pas, parce que je peux être cynique à un moment donné, c'est que ils ont tué la poule aux œufs d'or. Parce qu'à un moment donné, ils auraient dû faire comprendre qu'il fallait la sortir un peu de ce cirque infernal. Non, j'ai trouvé, si vous voulez, son entourage un peu sordide, hein, je l'avoue. Et surtout, ce qui m'a fait de la peine, parce que bien évidemment, j'ai lu les deux autobiographies de son père et de sa mère. D'ailleurs, sa mère, je ne sais même pas si ça a été traduit en français. Non. Et c'est une justification que... Elle est morte, mais c'est pas de ma faute. Et quand effectivement on a vu qu'il y avait des problèmes, on savait pas quoi faire. On n'a jamais su quoi faire.
Il était une fois une jeune femme qui ne savait pas s'arrêter. Ou qu'on n'a pas pu arrêter. Et notamment au moment où on voit qu'il est temps d'arrêter pour elle, on sent qu'il y a un moment donné où il faut qu'elle arrête, ou alors qu'elle se consacre uniquement à la création, c'est-à-dire à la composition et à l'enregistrement, parce que les moments de grâce sont là. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces moments-là, où elle est tout autre, où on la retrouve incandescente. Et dans ces moments-là, on voit son père qui n'arrive pas à la protéger. Peut-être parce qu'il a trop de bénéfices narcissiques. En tout cas, il la remet sur les... Il veut qu'elle finisse ses concerts alors qu'on voit qu'elle n'en peut plus. Et puis, il y a cette scène où elle est sur une île, un peu au loin, qu'elle est en train de se restaurer. Et son père vient avec une équipe de journalistes pour la filmer. Et il va presque aller chercher des touristes pour dire, voilà, regardez ma fille, il faut faire un selfie avec...
D'un manager, c'est pas le rôle d'un papa, mais il a bien vu que son artiste était en train de chuter.
Oui, tout le monde le voit, mais qu'est-ce que vous voulez faire ?
Arrêter ?
Elle arrête pas. C'est très compliqué à gérer. Alors, je sais qu'il y a une grosse polémique là-dessus, où les gens ont dit oui, mais quand même, on aurait pu, etc. Oui, vous. Moi, je l'ai vécu aussi dans mon entourage proche. Mais on n'arrête pas. Arrêter, ça veut dire quoi ? Débrancher la prise ?
Ou faire une pause ?
Mais il n'y a pas de pause. Elle venait, elle allait honorer les rendez-vous simplement. À un moment donné, elle attrapait une bouteille, elle attrapait un truc, et puis ça partait dans le mauvais sens. Bon, alors, ou alors, faut faire quoi ? Amener des petits bons hommes en blanc et puis l'enfermer dans une salle capitonnée. C'est très compliqué à gérer.
Mais vous avez vu le concert qu'elle donne à Belgrade ? Mmh. Ou l'absence de concert ?
Oui.
Poussé par son père qui lui dit d'honorer ses contrats.
Oui, 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 je sais. Je sais. Mais il faut savoir aussi que 15 ans avant, c'est le père qui lui fait sa culture musicale. Qu'elle écoute les disques de jazz que son père met, elle est dans sa chambre, elle ouvre la porte, elle lui dit ça, j'adore, papa. Donc je veux dire, oui, si vous voulez, si on sort une séquence, on peut considérer que c'est un monstre. Ok, père d'Amy Winehouse, c'est un chauffeur de taxi au départ, c'est un mec qui n'est pas très intellectuel d'ailleurs, bon, qui est cultivé musicalement, mais qui n'est pas bon. Ouais, ok. A-t-il été maladroit, il était calculateur, je sais pas.
Charles Moriarty, est-ce qu'à votre avis, Amy, elle s'est saoulée à la popularité, je sais pas moi, à la renommée ?
I think she possibly drank through...
Son alcoolisme a à voir avec ses émotions, plus qu'avec le succès. Bon, ce succès l'a obsédée, et puis cela l'a amenée à boire, mais je pense qu'elle aurait volontiers laissé tout ça derrière elle. Elle en aurait été heureuse.
She'd almost become a pin-up girl for the press.
Elle est devenue quasiment une pin-up pour la presse en raison de ses mauvais comportements et.
And I think she was hounded.
C'est comme si elle guettait les réactions des journalistes plutôt que de continuer à chanter. C'est ces journalistes qui réclamaient qu'elle se mette minable parce que ça fait vendre du papier.
Alors moi j'ai été frappé par le fait que. Dès le départ, elle souffre de la dépendance, du manque à son père, de la dépendance amoureuse avec Blake, et que finalement, le moment où elle rencontre le public, c'est quand elle chante La Dépendance et où elle chante Rehab. Il se trouve que j'ai travaillé beaucoup en addictologie aussi, et effectivement, Rehab a quelque chose d'un grand pied de nez à la face de tous. J'irai pas me sevrer, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a tout. Il y a tout dans ce titre, il y a toute sa vie, il y a toute le lien qu'elle a pu avoir avec son public et le business. He tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. If my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Amy ? En fait, c'est une trajectoire banale pour une fille qui se brûle les ailes à la célébrité, à la gloire.
Non, 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 non. C'est une fille qui est amoureuse d'un salopard. C'est ça qui lui est arrivé. C'est une histoire d'amour qui tourne mal. C'est une fille qui est folle amoureuse d'un salopard, d'un sale type. D'un bad boy. Et qui la rend folle. Elle était folle amoureuse de ce mec qui valait pas de paix de lapin. Bon, alors c'est peut-être ça qu'il faut chercher à expliquer. C'est pourquoi est-ce qu'elle est tombée amoureuse d'un gars qui était nocif pour elle. Et tout le monde le savait, puisque quand elle le rencontre, elle boit peu, elle se drogue pas. C'est-à-dire que c'est lui qui la met dans tout ce truc-là. Pour la lancer en France, j'ai organisé un concert à Bobino. Il était là, le mec. J'ai vu...
Blake,
oui. J'ai vu une nana complètement amoureuse et complètement obsessionnelle de savoir où est-ce qu'il était dans la salle, etc.
Et lui, il était comment ?
Lui, il était... pardonnez-moi l'expression, tête de con.
Je crois que c'est ça, c'est un gros chagrin d'amour, parce que quand...
Est-ce que c'est deux chagrins d'amour? Est-ce que c'est papa à 9 ans et après Blake qui répète ce chagrin d'amour?
Vous avez raison, c'est le père, l'amour pour le père un peu incestuel. Et puis, bien sûr, Blake, c'est vraiment l'amour de sa vie et un amour destructeur, autodestructeur. Deux gros chagrins d'amour qui la conduisent dans une solitude terrible au 30 Camden Square.
Alors, dans votre livre, vous donnez le taux d'alcoolémie le jour de sa mort, 4,16 g, et vous dites que c'est presque un calibre de flingue.
Oui, parce qu'elle a lutté véritablement contre ses addictions, et en particulier l'alcool. Et dans les derniers jours de sa vie, elle va voir notamment son confident et elle lui dit « J'ai besoin de quelqu'un qui me protège contre moi-même ». Elle lui sort ça comme ça. Et puis elle se retrouve toute seule à un moment donné dans ce quartier, je le répète, que j'ai trouvé sinistre. Et là, je pense que elle pète un câble, c'est un suicide. Elle boit 3 bouteilles de vodka. Après un sevrage difficile, oui, c'est comme si on se mettait un calibre sur la tempe et puis paf, voilà, on tire et c'est fini. Parce que c'est trop. Parce qu'il n'y a personne qui est là pour la sauver en réalité ou même lui parler. Donc voilà, elle meurt seule.
Quand vous apprenez la mort de... d'Amy Winehouse, Valérie Zetoun, qu'est-ce que vous ressentez? Vous dites ça devait finir comme ça, ou qu'est-ce que vous pensez?
D'abord, je l'apprends d'une manière très humoristique. Parce qu'à l'époque, je suis en vacances chez mon copain Bac BD. Et je suis parti jouer au tennis, donc j'ai pas mon téléphone. Et je remonte chez lui, dans sa maison. Et je sens une gêne. Et là, il me dit, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Et il me dit, le dealer d'Amy Winehouse est au chômage. Et puis je vais prendre ma douche parce que je sors de faire du sport et sous la douche je pleure parce que j'ai aimé cet artiste. Je suis pas en train de vous raconter que j'étais son meilleur ami, etc. Je pleure juste, je pleure même pas parce que je la connaissais, je pleure parce qu'on perd une grande artiste. Et ensuite je suis invité à Londres à l'enterrement et c'était incroyable parce que les paparazzi anglais sont, par rapport aux Français, les Français, c'est des agneaux par rapport aux Anglais. C'est-à-dire qu'ils avaient loué des cercueils, ils se planquaient dans les cercueils pour pouvoir avoir les photos. Et on a changé 4 fois de cimetière, c'est-à-dire que le manager m'appelait en me donnant une première adresse, et puis au moment où j'arrivais, ils m'ont donné une deuxième, pour essayer de que les paparazzi ne suivent pas le... ça a pas loupé, il y en avait dans le cimetière. Et ils prenaient des photos, ils soulevaient les cercueils, ils prenaient des photos, il y a plein de photos qui ont été prises.
Goulsang, dans la mort, Amy Winehouse a rejoint le club des 27, donc ces artistes qui meurent tous à 27 ans. Avant elle, donc, il y a eu Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain et Janis Joplin.
I think there's some others as well.
Il doit y en avoir d'autres. Je ne me rappelle pas. Mais quelle liste!
And it's also quite a list of...
C'est aussi une liste qui raconte ce qu'on fait en musique quand on y met son âme. C'est valable pour tous ces musiciens.
I guess the story is the drugs and booze and
ça raconte les drogues, l'alcool et aussi la sensibilité de leur âme.
That kind of genius.
Et aussi leur génie. Enfin, je suis pas très friand de ce mot, mais leur talent qui est un poids trop lourd à porter. Tous les gens que j'ai rencontrés qui avaient un talent fou ont des problèmes. La vie pour eux, c'est pas une ligne droite. Elle est pleine d'embûches et malgré ça, il y a ce talent pour lequel des gens se feraient couper un doigt de la main.
Ce club des 27, vous pensez qu'ils ont formé un groupe et qu'ils jouent quelque part?
Well, let's hope so, you know. That would make it something to look forward to in this godforsaken world.
Ça fait un truc à espérer pour plus tard. Quel groupe?
Yeah, I mean it'd be quite
amazing. Ouais, avec Amy, Janis on
lead vocals.
Janis.
Yeah, I'm sure.
Qui font les voix principales, ouais, bien sûr. On devrait vérifier c'est quoi la liste complète et on compose le groupe. Espérons.
The heavenly angels.
Ce sont vraiment des anges. Si d'aventure les anges existent.
In many ways, she's the voice of a generation.
Pour moi, Amy, c'est la voix d'une génération. Dans le quartier de Camden, les gens affluent pour arpenter les rues de son enfance.
Et
sa musique continue de toucher tellement de gens. J'aimerais bien être jeune aujourd'hui et l'écouter pour la première fois. En la découvrant dans une boutique de disques, je pense qu'Amy continuera à durer encore et encore. C'est son anniversaire la semaine prochaine. Elle aurait eu 36 ans. Il y a beaucoup de gens qui continuent à l'écouter.
J'ai perdu deux fois, Amy. La première fois, l'alcool et les drogues dures me l'ont prise. La seconde fois, le samedi 23 juillet 2011, quand sa courte existence s'est arrêtée.
On a commencé par les lieux d'Amy et vous êtes allé voir sa dernière demeure. Au bout de la ligne noire, dites-vous, la Northern Line à Londres. Petite description de la tombe.
Alors c'est une tombe en granit noir avec l'étoile de David qui est en rose et avec les noms de tous ceux avec qui elle repose et notamment sa grand-mère Cynthia. C'est une tombe toute petite, minuscule. On s'agenouille parce qu'elle est à même la terre, elle est pas du tout en surplomb de quoi que ce soit. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est que c'est un cimetière très paisible, où vous avez des vaches qui sont à l'entrée. C'est vraiment la paix retrouvée, quoi. Et au bout, effectivement, de cette ligne noire, au sens propre et au sens figuré, voilà, je suis là. Et je suis là avec les gens qui m'ont vraiment soutenu, compris, sa grand-mère notamment, et aimé.
Il était une voix, Amy Winehouse, avec les producteurs Gil Sang et Valérie Zetoun, le photographe Charles Moriarty, le psychiatre Éric Corbobès, le journaliste Pascal Louvrier, auteur du livre Amy Winehouse No Limits, publié aux éditions de l'Archipel, et aussi Morgan Wadsworth Boyle du Musée juif de Londres. Extrait du livre Loving Amy de Janice Winehouse. Texte dit par Myriam Ajar et Anne Cressant. Une vie, une œuvre. Coordination Christine Bernard, assistée de Daphné Abgral et de Suzanne Cinca. Prise de son Jean-Louis Deloncle. Réalisation Yvon Croisier. Une émission proposée par Michel Pomerade.
Quelquefois, je me demande ce que je fabrique sur scène. Enfant, je ne voulais pas être chanteuse. Juste être une ado comme les autres, traîner avec mes copines, trouver un job décent, gagner de quoi faire du shopping et aller danser le samedi soir. En fait, j'ai toujours rêvé d'avoir une vie normale, je crois. Je n'ai jamais été une fille très ambitieuse. J'aimerais bien faire un troisième disque, mais franchement, je préférerais avoir des enfants. C'est sûr, je ne vais pas monter sur scène encore très longtemps. Amy Winehouse. Entretien dans les Inrocks, octobre 2007.
Vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture, un site préparé et enrichi par Daphné Abgral et Julia Martin. Tout de suite, à 16h, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.